Le lendemain, après-midi du meurtre. Dimanche 4 avril 1999. La visite chez les Donovan apportait un éclairage nouveau à la soirée du vendredi 2 avril. Walter Carey affirmait être resté dans le bar jusqu'à la fermeture, mais les Donovan, partis avant, ne pouvaient le confirmer. Gal, Wood, Vance et Kaczynski se rendirent alors au National Anthem. L'établissement était en plein service de midi et Steve Ryan, le patron des lieux, était accaparé par les préparatifs du soir qui marquaient le début de la saison de baseball. En match d'ouverture, les Padres de San Diego recevaient les Rockies du Colorado. « On ne vous embêtera pas longtemps, » rassura Vance. « On cherche juste à vérifier qu'un client était bien ici vendredi soir. » « Si vous saviez le monde qu'il y avait vendredi soir, mais dites toujours. » « Walter Carey, vous connaissez ?»«
Walter, bien sûr que je le connais. »
« Eh oui, il était là vendredi soir. Ah, ça, je m'en souviens. Il était pas bien. Alaska venait de le larguer. Il voulait parler, mais j'avais vraiment pas le temps. Qui aurait imaginé qu'on allait la retrouver morte le lendemain ?»«
Attendez, vous n'êtes pas en train d'accuser Walter de l'avoir tué ?»
On n'accuse personne à ce stade, on ne fait que mener notre enquête.
Walter ne ferait pas de mal à une mouche.
Enfin, une mouche, si, il adore la pêche. Mais c'est un gentil, et pas le genre de gars qui va buter sa petite copine. Et puis il l'aimait, cette fille.
Walter affirme qu'il était ici jusqu'à la fermeture.
Oh, c'est possible, j'en sais rien. Il y avait encore tellement de monde. Mes videurs ont dû faire appel à la police pour évacuer tous les clients.
Est-ce que vous pourriez demander aux employés vendredi soir s'ils ont vu Walter Carey dans le bar à la fermeture?
Comptez sur moi.
Depuis le National Anthem, les policiers remontèrent la rue principale à pied jusqu'à la boutique de chasse et pêche des Carey. À cet instant, une voiture de police s'arrêta à leur hauteur. Au volant, le chef Mitchell.
Ah, c'est vous, dit-il en sortant de son véhicule. On a reçu un appel pour nous signaler trois types qui déambulaient sur la rue principale. Depuis hier, les gens sont parano. Remarquez, on le serait à moins. Vous avez du nouveau?
Pas grand-chose encore, avoua Vance. On revient du National Anthem. Le patron affirme qu'il a dû appeler la police en renfort vendredi soir pour vider le bar au moment de la fermeture.
Et c'est vrai, c'était le bordel. Enfin, un gentil bordel. Steve Ryan nous a surtout sollicité afin d'éviter qu'on lui colle une amende pour dépassement des horaires légaux. C'est un malin. Il appelle les flics et ça lui accorde quelques minutes de rap pour prendre les dernières commandes qu'il encaisse aussitôt.
Qu'est-ce que vous lui vouliez à Steve Ryan?
On essaie de savoir si Walter Carey était dans son bar au moment de la fermeture.
Vous le soupçonnez du meurtre d'Alaska?
On essaie de démêler les fils de cette affaire.
Vous voulez mon avis? Reprit le chef Mitchell. Votre intuition est bonne. Walter est un type charmant mais qui peut être agressif et violent quand il a un coup dans le nez. Allez parler à son ancienne petite copine, Deborah Miles. Elle habite toujours ici. Il y a quelques années, j'ai dû intervenir chez elle. Enfin, chez ses parents, où elle vivait à l'époque.
Quel lien avec Walter Carey?
Demanda Gal Wood. Elle l'avait quitté et il ne l'a pas supporté. Il l'a quasiment agressé. Pas anodin comme épisode. Surtout quand on sait qu'Alaska a rompu avec Walter le jour même de sa mort.
Gal Wood nota le nom et les coordonnées de Deborah Miles. Il dit ensuite au chef Mitchell
« On va diffuser demain un appel à témoins dans tous les journaux de la région. Ça réveillera peut-être des souvenirs. Tenez-nous au courant si on vous signale quelque chose. »
« Sans faute. Vous savez, les gens parlent beaucoup, mais c'est surtout pour se rendre intéressant. Jusque-là, le seul signalement valable a été donné par Cynthia Lockhart, la libraire. Je comptais vous en parler. »
« Qu'a-t-elle vu ?»
Dans la nuit de vendredi à samedi, autour de 1h45, elle a aperçu une voiture bleue avec une plaque du Massachusetts qui démarrait en trombe à la hauteur du magasin des Carey.
Une voiture bleue comme la voiture d'Alaska?
Oui.
La librairie était ouverte le dimanche et les policiers n'eurent qu'à traverser la rue pour trouver Cynthia Lockhart. La boutique était petite mais fort bien achalandée. Derrière la caisse, un mur de photos témoignait des célébrités littéraires qui étaient passées par là pour des séances de dédicaces. Cynthia Lockhart expliqua aux enquêteurs qu'elle habitait avec sa famille dans un bâtiment jouxtant la librairie. C'était un ancien atelier avec du cachet. L'entrée se faisait par une rue parallèle, mais le salon donnait sur la rue principale.
« La nuit de vendredi à samedi, je n'arrivais pas à dormir, comme souvent. C'est pour ça que je lis autant.
Dès que j'ai une insomnie, je m'installe dans le canapé du salon, je me fais une tisane et je bouquine. Cette nuit-là, vers 1h40, j'ai entendu comme un bruit de verre depuis la rue. Ça a évidemment attiré mon attention. Le temps d'aller à la fenêtre, j'ai aperçu une voiture qui démarrait en trombe. J'étais trop loin pour pouvoir lire la plaque, mais j'ai regardé aussi attentivement que possible et j'ai reconnu une plaque du Massachusetts. La voiture était de couleur bleue. Je l'ai vue à la lumière des lampadaires.
Et vous dites qu'il était 1h40?
Il était 1h39, exactement. Je le sais parce que je suis aussitôt allé voir l'heure à l'horloge de la cuisine, au cas où.
Au cas où quoi?
C'était une scène légèrement suspecte à mes yeux. Enfin, quand j'ai raconté ça à mon mari, il m'a dit que je me faisais du cinéma.
Sauriez-vous donner une indication sur le modèle de la voiture? Demanda Galwood.
Malheureusement pas, regretta Cynthia Lockhart.
Était-ce une décapotable?
Impossible à dire.
Lorsqu'ils sortirent de la librairie, Kaczynski suggéra « Une voiture bleue avec une plaque du Massachusetts. Alaska serait revenue chez elle pour récupérer des affaires ?»«
Ce serait assez logique, » reconnut Vance. « D'après Walter, il l'aurait surprise ce jour-là vers 17h, en train de réunir des affaires. Elle aura été interrompue, mais elle sera revenue ensuite pour récupérer ce qui lui manquait. »
« À 1h45 du matin ?» interrogea Galwood.
Elle pense qu'en pleine nuit, Walter sera en train de dormir. En réalité, il est au National Anthem. Enfin, du moins, c'est ce qu'il affirme. Est-ce qu'elle monte finalement dans l'appartement? Ou est-ce qu'elle est dérangée et doit y renoncer? En tout cas, elle part en trombe. Peu après, elle sera tuée à Gray Beach.
Que fabrique-t-elle au bord de ce lac à 2h du matin? Est-ce qu'on sait désormais, ajouta Galwood, c'est qu'Alaska n'a pas quitté la région ce soir-là? Était-elle à ce fameux dîner romantique? Et qui est son amant, puisqu'on sait qu'il ne s'agissait pas de Walter Carey? Faudra essayer d'aller faire le tour des restaurants de la région et montrer la photo d'Alaska. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose.
Il va y avoir des centaines de restaurants, fit remarquer Kaczynski.
Pas si on se limite aux restaurants chics, les endroits huppés pour un dîner romantique. Faut se renseigner via les offices du tourisme, à commencer par celui de Mount Pleasant.
Vance, Galwood et Kaczynski étaient venus à Mount Pleasant à bord de deux véhicules afin de pouvoir se séparer si nécessaire. C'est justement ce qu'ils firent. Kaczynski allait se charger de la tournée des restaurants. Galwood et Vance rendraient visite à Lewis Jacob, le propriétaire de la station-service, qui avait demandé à les voir, ainsi qu'à Deborah Miles, l'ancienne copine de Walter, dont le chef Mitchell leur avait parlé. Lorsque Lewis Jacob vit Galwood et Vance entrer dans le magasin de la station-service, il sembla soulagé.
« Enfin » dit-il. « Enfin, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. »
La raison pour laquelle Lewis Jacob avait demandé à Galwood et Vance de venir se trouvait dans son arrière-boutique. « J'ai touché à rien, » les prévint-il en les entraînant avec lui. Il les conduisit à son bureau, une petite pièce étroite, au fond de laquelle se dressait un grand coffre-fort posé à même le sol.
Regardez ce que j'ai trouvé ce matin, dit-il en tirant la porte blindée.
Il désigna aux enquêteurs un vêtement, un mot manuscrit et de l'argent. Galwood et Vance enfilèrent des gants en plastique. Le premier s'empara du vêtement. C'était un polo aux couleurs de la station-service. Un badge en métal épinglé au niveau de la poitrine portait l'inscription Alaska.
« C'est la tenue qu'elle portait vendredi, » dit Galwood en se remémorant les images vidéo.
Lewis Jacob acquiesça.
« Elle a dû laisser ça vendredi soir, au moment de fermer la station-service. Je ne l'ai pas vue hier, car avec tous les événements, je suis resté fermé et je n'ai pas touché au coffre. Je n'avais même pas encore ouvert lorsque Lorraine, la petite joggeuse, a déboulé au magasin. »
Vance donna alors lecture de la note manuscrite.
« Cher Monsieur Jacob, je n'ai pas eu le courage de vous annoncer mon départ de vive voix. Je ne reviendrai plus. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous écrirai, c'est promis. J'ai laissé ma clé du magasin dans la boîte aux lettres. Affectueusement, Alaska. PS, ne dites rien à Walter, s'il vous plaît. PS 2, pardon pour les soucis que je vous ai causés. »
Et sur les bandes vidéo, on la voit déposer quelque chose dans la boîte aux lettres. Se souvint Galwood.
Et c'était bien sa clé,
confirma Lewis Jacob.
Elle avait donc prévu de partir,
dit Vance.
À quel souci fait-elle référence ?
Lewis Jacob haussa les épaules.
Rien dont je me souvienne. Vous savez, c'était une perfectionniste. Les perfectionnistes font drame de tout. Alaska a toujours été là pour m'aider. Quand Samantha, mon employée du dimanche, a démissionné il y a 2 mois, Alaska n'a pas compté ses heures pour me soulager. De temps en temps, c'est vrai, il y avait un petit couac avec une commande ou la caisse. Alors elle me téléphonait et ça l'embêtait de me déranger.
Je suis censé vous aider et je ne fais que des bêtises. Vous voyez le genre de merveille que c'était.
Gal Wood ramassa les billets et les compta.
Cet argent, c'est Alaska qui l'a mis ici ?
Oui, répondit Lewis Jacob. Je ne laisse jamais de l'argent traîner comme ça. Je mets tout ça dans la petite caisse en fer. Il y a combien exactement ?
400 $. Le vieux pompiste sourit.
Quand elle a fait toutes ses heures supplémentaires, après la démission de Samantha, elle a refusé d'être payée. J'ai insisté, mais elle me disait que c'était normal de donner un coup de main. J'ai fini par lui glisser 400 $ dans son sac. Les voilà.
L'évocation d'Alaska lui arracha des larmes. Il en fut gêné.
Pardon, messieurs. Pardon de pleurer comme un enfant. Mais c'est trop dur d'imaginer qu'elle est morte.
Ne vous excusez pas, monsieur Lewis, le réconforta Vance. Est-ce que vous vous doutiez de ce départ ?
Pas le moins du monde. Bien sûr, parfois, elle évoquait New York et ses rêves d'actrice. Je me doutais qu'elle ne resterait pas à Mount Pleasant toute sa vie. Alaska était une fille qui avait besoin des lumières de la ville. Mais pourquoi partir du jour au lendemain ? On dirait presque une fuite.
Sur les enregistrements vidéo de la journée de vendredi, Alaska s'absente de son travail pendant 1/2 heure environ et revient avec un sac de voyage.
Et elle m'a dit qu'elle avait oublié de récupérer des affaires et qu'elle avait besoin de faire un aller-retour chez elle. J'ai donné mon accord, évidemment.
Était-il habituel qu'elle s'absente ainsi ?
Non, c'était la première fois.
Je n'avais justement pas de raison de le lui refuser.
C'était une employée modèle, motivée, disponible, travailleuse, souriante, jamais malade, jamais à se plaindre, rien, du pur bonheur.
Et quand vous l'avez vue revenir avec ce sac, vous ne vous êtes pas posé de questions ?
À vrai dire, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je n'épie pas mes employés, vous savez. Elle avait oublié des affaires, elle est revenue avec un sac. Tout ceci était logique.
Hier, reprit Galwood, vous nous avez confié que le couple formé par Alaska et Walter Carey connaissait des hauts et des bas.
Oui, c'est vrai. Pour être honnête, je crois qu'elle ne l'a jamais aimé. Je me suis toujours demandé ce qu'elle faisait avec lui.
Saviez-vous que pendant sa courte absence de la station-service, vendredi, elle avait annoncé à Walter son intention de le quitter ?
Je l'ai appris hier. Tout le monde en parle en ville.
Vance reprit. Vous avez mentionné un dîner romantique. Alaska avait rendez-vous avec quelqu'un et nous savons à présent que ce n'était pas Walter. Savez-vous de qui il s'agissait ?
Aucune idée. Vous pensez bien que je l'aurais déjà mentionné, sinon.
Alaska ne vous avait donc jamais parlé d'un amant ?
Jamais.
Dans le mot qu'elle vous a laissé, Alaska écrit de ne rien dire à Walter. Pourquoi, à votre avis ?
Parce qu'elle ne voulait pas lui faire de peine, j'imagine.
Lewis Jacob s'était interrompu dans sa réponse. Il parut soudain pensif.
« Qu'y a-t-il, monsieur Jacob ?» demanda Gal Wood.
« Est-ce que vous avez entendu parler de Deborah Miles ?»«
Drôle de coïncidence que vous la mentionniez. Le chef Mitchell nous l'a évoqué tout à l'heure. Il nous a conseillé d'aller lui rendre visite. »«
Il a raison. »
Deborah Miles n'était pas chez elle. Ce dimanche-là, elle travaillait au supermarché de Wolfboro, ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Gal Wood et Vance allèrent la trouver là-bas. Elle prit une pause et proposa aux enquêteurs d'aller discuter sur le parking pour être tranquille. C'était une jeune femme d'environ 30 ans, aux traits tirés et à la mine fatiguée.
« Qui vous a parlé de Walter et moi ?»
demanda-t-elle.
« Le chef Mitchell de la police de Mount Pleasant, » répondit Gal Wood. Il semble que ça se soit mal terminé avec Walter.
On est sortis ensemble, c'était il y a environ 5 ans. Il venait de se réinstaller à Mount Pleasant.
Où était-il avant ?
À l'armée.
Il était militaire ?
Oui, Après le lycée, il a rejoint le corps des Marines. Il a fait la guerre du Golfe et la Somalie. Après ça, il a décidé de retourner à la vie civile. Je crois qu'il avait envie de reprendre le magasin de ses parents. Et puis la chasse et la pêche, c'était son truc. Walter et moi, on se connaissait depuis le lycée. Ça m'a fait plaisir de le retrouver. Le courant a passé, on s'est mis ensemble. C'était sympa au début. Quand était-ce ? À l'automne 1994. Ça n'a pas duré longtemps. Que s'est-il passé entre vous ? J'aimais bien Walter. Fondamentalement, c'est un bon type. Mais j'ai rapidement compris que notre relation ne nous mènerait pas très loin. J'étais encore jeune, j'avais envie de me marier, d'avoir des enfants. J'étais consciente que je ne ferais pas ma vie avec Walter.
Pourquoi ?
J'avais envie de quitter Mount Pleasant, de voir autre chose. Je ne sais pas comment ni pourquoi, 5 ans plus tard, j'y vis toujours. Marié à un type du coin avec 2 enfants qui y passeront sûrement leur vie comme moi.
Oh, c'est une jolie petite ville, fit remarquer Vance.
Les jolies petites villes sont souvent peuplées d'esprits étroits, répondit Deborah Miles. À un moment donné, il faut savoir partir.
Donc, vous aviez l'intention de quitter Mount Pleasant. C'est ce qui a provoqué votre rupture avec Walter ?
Non, comme je viens de vous le dire, je ne me voyais pas finir mes jours avec lui. Après quelques mois, je me suis résigné à le quitter. C'était peu avant Noël. Il l'a très mal pris. C'était bizarre parce que sur le moment, il n'a pas vraiment réagi. On était allé prendre un café au Season. Je lui ai annoncé que je voulais qu'on se sépare et il m'a juste répondu « ok ». Il avait l'air de s'en ficher complètement. Je suis rentré chez moi très soulagé que ça se termine si bien. Ce soir-là, mes parents n'étaient pas à la maison. Je regardais la télé dans le salon lorsque soudain, j'entends des coups contre la porte.
Mount Pleasant, décembre 1994. Deborah Miles se demanda d'abord qui tapait ainsi au lieu d'utiliser la sonnette. Elle n'éprouva cependant aucune inquiétude. Mount Pleasant était une ville paisible. Elle ouvrit la porte et découvrit Walter. Il avait l'air frigorifié. La maison des Miles se trouvait sur un terrain isolé. En ce soir d'hiver, l'obscurité régnait sur la propriété couverte de neige.
« Walter, qu'est-ce que tu fais là ?»
Il semblait furieux. Son regard était mauvais.
« T'as quelqu'un d'autre, c'est ça ? »
dit-il à Deborah d'un air dégoûté.
« Tu t'en tapes un autre, tu m'as fait cocu. »« Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Walter ? Je ne t'ai pas trompé. Ne me mens pas, salope ! Mais arrête, Walter, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui te prend, enfin ?»
Mais Walter y tenait mordicus.
« C'est lui que tu attends. »
« Je n'attends personne.
C'est pour lui que tu t'es faite belle. »
Deborah n'avait jamais vu Walter dans un état pareil. Elle voulait à tout prix apaiser la situation et le convaincre de s'en aller.
« Walter, je regarde la télé, c'est tout, je te le jure. Tu devrais rentrer chez toi. T'es une salope, Deborah !»
Elle sentait la peur la gagner. Elle devait se débarrasser de lui. Elle aurait voulu lui claquer la porte au nez, mais il s'était positionné de façon à l'en empêcher. Elle décida alors de jouer son va-tout.
« Walter, tu devrais rentrer chez toi. Mes parents sont là et tu connais mon père. Il ne va pas trop apprécier ce genre de scène. »
Il ricana.
« Tes parents ne sont pas là. Ça fait bien une demi-heure qu'ils sont partis. »
Deborah se décomposa.
« Tu m'espionnes ?»« J'attendais de voir si ton prince charmant allait se pointer. Il fait vraiment trop froid. Allez, laisse-moi entrer, il faut qu'on cause. »
Dans un geste désespéré, Deborah repoussa brusquement Walter. Celui-ci, surpris, tomba dans la neige. Deborah eut le temps de refermer la porte et la verrouiller avant qu'il ne se relève. Il se jeta contre la cloison et tapa de toutes ses forces.
« Ouvre !» hurla-t-il. « Ouvre, salope !»
Deborah était déjà dans l'escalier et se réfugia dans la chambre de ses parents. Elle entendit soudain une fenêtre se briser avec fracas. Elle attrapa le téléphone et composa le numéro d'urgence de la police.
Walter a été arrêté tandis qu'il quittait notre propriété, raconta Deborah Miles au policier. Il avait beaucoup bu.
Vous avez porté plainte ?
Non, il a payé la réparation de la vitre et il a écrit une lettre d'excuse à mes parents et à moi. Mon père, qui a fait le Vietnam, a toujours eu de la compassion pour les vétérans. Et puis la vraie punition de Walter a été qu'après cet épisode, plus aucune fille de la région ne voulait de lui, qu'il était grillé. C'est pour ça qu'il allait souvent à Salem, chez son copain Eric Donovan. Il espérait rencontrer une fille qui ne connaisse pas son passé.
Quand il a ramené cette jolie blonde à Alaska, on s'est tous demandé ce que cette pauvre fille venait faire dans ce trou perdu. Au fond, je regrette de ne pas avoir porté plainte contre lui à l'époque. J'aurais dû le faire. Pas pour moi, mais pour les autres. J'aurais peut-être pu éviter ça.
Éviter quoi?
Qu'il tue Alaska?
Mon séjour romantique à Harbor Island, l'île paradisiaque des Bahamas, ne se passa pas du tout comme je l'avais prévu. À commencer par le départ, puisque Reagan ne me rejoignit pas à l'aéroport de Montréal.